Bonjour Fatou Diom.
Bonjour.
Vous êtes autrice franco-sénégalaise, basée depuis quelques années à Strasbourg. Vous avez acquis notamment une renommée internationale avec la publication en 2003 de votre roman « Le ventre de l'Atlantique ». En 20 ans de carrière d'écrivaine, vous avez publié une dizaine de romans, de nouvelles et puis un essai, « Marianne porte plainte », publié en 2017. Vous abordez notamment dans vos écrits les thèmes de l'immigration en France, de la relation entre la France et le continent africain, et vous développez aussi beaucoup sur le Sénégal que vous connaissez bien. Vous publiez pour cette rentrée littéraire un nouveau roman, « Les Veilleurs de Sangomar », paru aux éditions Albin Michel. « Les Veilleurs de Sangomar », c'est votre dernier roman depuis « Impossible de grandir », publié en 2013. Donc 6 ans, c'est une longue attente pour les lecteurs qui vous aiment et qui étaient habitués à un rythme plus soutenu. Est-ce que ce roman nécessitait justement un temps de réflexion, de recherche, d'écriture plus long peut-être ?
Je l'avais commencé. En fait, je l'ai arrêté pour écrire « Marianne porte plainte », mon essai pendant les élections présidentielles de 2017. Donc c'est Marianne qui a pris la place et puis elle le mérite bien.
Le point de départ des veilleurs de Sangomar, c'est le naufrage du Diola, hein, ce ferry qui assurait la navette entre Dakar et Ziguinchor en Casamance le 26 septembre 2002. Le Diola était conçu pour transporter 536 passagers. On a dénombré, selon les statistiques officielles, 1863 morts, plus de 2000 selon les associations de victimes, ce qui en fait quand même l'un des naufrages les plus meurtriers, au moins en période civile, en période de paix. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a eu que 65 survivants. 64, d'accord. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet événement comme point de départ de votre roman?
Parce qu'au Sénégal déjà, à l'époque où le Diola coulait, on était moins de 14 millions. Donc c'était 13 millions et des poussières. Dans un pays qui fait 14 millions d'habitants environ, perdre 2000 personnes le même jour, c'est pratiquement toutes les familles sont touchées. Ou les collègues, ou des amis, ou des voisins. Mais chacun pouvait parler d'une famille qui avait perdu quelqu'un, ou d'un proche, ou d'un collègue, ou d'amis d'enfance, c'était mon cas aussi. Et les gens en parlent encore maintenant, c'est resté un traumatisme national. Et puis il y a les anniversaires. Et à chaque fois que l'anniversaire revient, les gens parlent de nouveau, comme si c'était hier. Et je pense que ça ne passera pas. Ce deuil-là, c'est quelque chose de durable. Et il y avait de jeunes gens. Ça aussi, toutes les morts sont terribles. Mais quand ce sont des étudiants, des collégiens, des lycéens et aussi des touristes, beaucoup de nationalités étaient mêlées dans ce bateau-là. Moi, c'est tout ça qui m'a émue. Donc les étudiants qui revenaient des vacances, qui ont vu la famille, qui se sont réjouis d'être en famille et qui rentraient pour construire leur avenir à Dakar avec l'université, tous ces gens-là sont restés dans ce bateau. Vous avez un étudiant qui meurt au Sénégal, c'est souvent l'espoir de toute une famille parce que parfois c'est le premier à être scolarisé jusqu'à ce niveau-là. Et ces familles-là ont dû renoncer à ces enfants-là. Donc elles ne peuvent pas renoncer. Elles y pensent, elles parlent de ça. Et moi, à chaque fois que je vais au Sénégal, on m'en reparle. Et mon village natal, c'est juste en face de l'endroit où cette catastrophe s'est passée. C'est pas loin. Et les pêcheurs en parlent parce qu'eux-mêmes étaient traumatisés parce qu'ils ont ramené des corps. Tout ça, ensemble, restait dans ma tête. Petit à petit, et je me suis dit, moi aussi, ma seule manière de rendre hommage, eh bien, ce sera de faire un livre à propos de ce naufrage.
Dans Les Veilleurs de Sangomar, vous abordez justement à travers le personnage principal de Kumba, une jeune femme laissée veuve par le naufrage du Diola. Cette incommensurable douleur du deuil et finalement la question de la relation au défunt. Pourquoi avoir fait ce choix de l'aborder ce thème sous la question de la relation à son ancien mari qui est mort dans ce naufrage?
Oui, parce que quand il y a des pertes inouïes comme ça, les gens cherchent à se raccrocher à quelque chose. La religion, c'est un socle possible pour tenir la spiritualité traditionnelle aussi. Et l'Afrique est au confluent de différentes religions. L'islam, le christianisme, mais aussi nos anciennes religions animistes. Et Kumba, elle ne reconnaît pas du tout sa tradition dans ce qu'on lui dit tous les jours, parce que les gens qui s'occupent de son veuvage sont plutôt des radicaux. Hein, une veuve ne doit pas s'habiller comme ça, une veuve ne doit pas sortir à telle heure, une veuve ne doit pas agir ainsi, une veuve doit obéir, donc il faut obéir à la belle-mère, il faut accepter le lévirat, épouser le grand frère du mari. Tout ça lui semble injuste, comme elle ne s'y retrouve pas. Elle se dit, mais mon Afrique avait une spiritualité avant tout ça. Donc, allons retrouver nos ancêtres pour voir si c'était mieux. Donc, c'est le pari qu'elle fait. Elle pense que les ancêtres vont la conduire jusqu'à son immortel aimé, parce qu'évidemment, c'est une folle amoureuse, c'est une midinette. Elle est fleur bleue, elle est complètement gaga de son homme. Elle pense que c'était le meilleur du monde. Mais je pense qu'on pense toutes comme elle quand on est amoureuse. Donc, voilà.
C'est une prise de liberté de sa part, en fait, de choisir ce deuil-là. Je veux le faire comme ça, dans ma façon.
C'est sa résistance. C'est-à-dire que la journée, elle est encerclée par les visites, par les faux dévots qu'elle appelle les métamorphosés, mais de toutes les religions. Hein. Il y a les musulmans, mais il y a aussi les chrétiens. Combat dénonce les marabouts, par exemple, qui n'épousent plus la quête spirituelle, mais des querelles de bonnes femmes avides de lucre. Mais elle critique aussi ceux qui abusent du nom du Christ et qui s'habillent en costume de scène pour remplir des stades et vendre de l'eau bénite à 1000 francs CFA, soi-disant ça guérit des maladies. Elle critique tout ça, mais elle-même, elle a besoin quand même d'un tuteur, mais au sens vraiment classique du terme, quelque chose qui puisse la retenir, la tenir et l'accrocher à la vie. Et elle se dit, les ancêtres promettaient des retrouvailles possibles. On considère que nos morts se retrouvent sur l'île de Sangomar. Leur âme est là-bas en transit, qu'on peut les convoquer parce que tant que les humains, les vivants ne sont pas consolés, ils ne partent pas. Ils peuvent répondre à l'appel des vivants pour les guider, pour les consoler, pour leur donner des conseils. Et quand enfin on accepte de les laisser partir, eh bien, ils vont continuer leur vie, leur navigation dans une autre partie de l'univers de Roxane.
Justement, c'est un thème important dans votre livre. Cette critique des gens qui ont abandonné cette philosophie, cette coutume traditionnelle pour embrasser des religions étrangères. En plus, vous dites souvent que ces métamorphosés, ces mutants, maîtrisent mal, ne connaissent pas ce dont ils parlent et qu'ils veulent imposer en plus aux autres, et notamment à Akumba. Est-ce que vous avez été victime de cette oppression quand vous étiez enfant sur l'île de Niodior?
Ah, moi, je ne peux pas être victime de cela parce que, comment on peut dire, mon état d'esprit est fait de telle sorte que une telle pression, par exemple, elle m'amuse et elle m'encourage plutôt à résister. Et mon grand-père, c'était quelqu'un de très ouvert d'esprit. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents et mon grand-père disait toujours, le Coran, l'islam, soit. Mais une nouvelle source ne me conduira pas à combler mon puits d'avant. Donc il avait son puits d'avant, il se désaltérait à ce puits-là. Donc les gens peuvent découvrir de nouvelles sources, c'est de l'eau en plus. Mais ne pas supposer remplacer l'eau que nous avions avant, parce que nous pourrions encore mourir de soif. Il faut quand même garder ce que nous avions avant. Et moi, c'est ce que je dis à l'Afrique, c'est-à-dire que je trouve le syncrétisme religieux charmant. Vous savez, moi, je me sens très bien dans une église ou dans une mosquée ou dans un temple ou n'importe où et sous un baobab. La connexion, pour moi, elle est intérieure. La spiritualité, elle est intérieure. Je suis tout à fait à l'aise quand je pars avec des bonnes sœurs en méditation. Et je suis tout à fait à l'aise aussi si je prends le Coran et je lis pour essayer de réfléchir. Il y a une portée philosophique dans tout ça. Donc les gens doivent juste se souvenir que la religion, elle s'étudie. Comme tous les savoirs des sciences humaines, la religion, elle s'étudie. Et puis, une des sourates les plus importantes du Coran, c'est donc Alak. Et c'est Iqra bismi rabbika. Donc, lis au nom du Seigneur qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas et par la plume. Donc, et puis, il encourage le croyant à étudier parce que s'approcher de la lumière, donc de la vérité, c'est s'approcher de Dieu. Et alors, la Bible dit pareil. Saint Jean dit, la vérité vous libérera. Mais encore faut-il la découvrir. Et ce que Kumba dénonce, ce sont justement des analphabètes qui se mettent à faire l'exégèse du Coran. Ce n'est juste pas possible. Voilà, c'est ça qu'elle dénonce. Elle ne critique pas la religion, elle critique l'abus de la religiosité qui est infondée en plus et qui manque d'arguments.
Vous citez régulièrement l'ancien président, dans votre ouvrage, l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, avec une certaine faveur, semble-t-il. Quelle place tient-il cet homme-là dans votre panthéon personnel, ce poète président, celui qui a en même temps chanté la négritude et milité pour une civilisation de l'universel?
Je pense que la place qu'il tient dans ma vie, il devrait la tenir dans toute vie de toute personne de ma génération. C'est-à-dire qu'il y a eu des raisons de mener des combats, mais ces combats, ils ont été menés. Et il y a eu des terrains pour rencontrer les humains, ces rencontres ont eu lieu. Donc il y a eu des échanges culturels, et bien, c'est une richesse pour nous tous. Nous avons essayé les guerres, les dominations, la colonisation, nous avons tout essayé. Donc ici on tentait l'amour pour une fois et le dialogue, et c'est ça que Senghor enseignait. Et moi j'ai envie de continuer ce message-là parce que c'est ce que je trouve de plus prometteur pour l'être humain. Trouvons un terrain d'entente. Il parlait de la troisième voie, la voie conciliante. Donc voilà, arriver à cette ligne médiane où je ne cherche plus à être supérieur ou inférieur à qui que ce soit, où je cherche juste à être moi parmi les autres et avec les autres. Et ce message-là, pour moi, je le répéterai tout le temps. Il y a aussi la poésie. Donc quand je parle de Senghor, je parle surtout du Senghor poète. Alors il n'aimait pas que les gens disent le président poète. Il disait non, c'est le poète président. Voilà, il était avant tout poète avant de devenir président. Et à ses yeux, être poète, rêver le monde, c'était beaucoup plus grand que rêver une nation. Une nation, c'est juste un périmètre. Hein. Mais rêver le monde, c'est rêver à la destinée humaine, où il nous convoquait dans ce dialogue de l'universel. Et il n'a pas inventé, hein. Vous savez, au XVIIIe siècle, Friedrich Schiller demandait aux humains de converger par toutes les voies avec leur diversité pour se rassembler donc à cette grande joyeuse fête de l'humain. Et Senghor, évidemment, il était imbibé de tout ça. Et c'est ce qu'il nous a enseigné. Et c'est quelqu'un qui tenait aussi à l'éducation. C'est aussi pour ça que je le vénère. Senghor, quand il était président, il mettait un tiers du budget national pour l'éducation. Nous, on pouvait écrire des lettres à travers le monde, avoir des correspondants, écrire la langue française, beaucoup plus jeune et très jeune, parce qu'il suffisait juste de mettre à la place du timbre FS. Cela voulait dire famille scolaire. Donc on pouvait avoir des correspondants au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, dans toute la francophonie. Ce n'était pas que des paroles en l'air quand il parlait de la francophonie. Et c'est tout ça que je célèbre à travers lui. Et puis aussi l'immense histoire d'amour avec cette belle Colette à qui j'ai envie de rendre hommage. Une Normande qui a une fidélité absolument hors norme. Elle a demandé à être enterrée à côté de son mari là-bas au Sénégal. Donc chez les Pangols, chez nos ancêtres animistes, là-bas tout près de son homme. Comme quoi l'amour ne voit pas des couleurs et des frontières. Et moi je m'incline devant cette dame qui vient de nous quitter il y a quelques jours.
Puisqu'on parle du poète, moi je voudrais parler de votre style. C'est un style, notamment dans votre dernier livre, Les Veilleurs de Sangomar, Fatodium, qui me paraît appartenir à ce qu'on appelle le grand style, avec du souffle, un véritable lyrisme et une écriture de crête, souvent tendue, mais pourtant vous ne craignez pas d'y introduire des expressions triviales. Moi je pense à cette phrase, bon je ne garantis pas la citation exacte, mais où vous dites à peu près « Une bonne copine ne vaudra jamais un Jules ».
Parce que quand Kumba convoque l'âme de son défunt mari, eh bien, il y a sa copine Pauline qui débarque. Comme ce sont des visions, elle peut demander au roi des ombres, à Sangomar, pour rencontrer ses défunts. Mais c'est le roi des ombres qui décide qu'il va apparaître. Donc elle appelle son amoureux, elle appelle Bouba, et qui débarque, c'est Pauline pour dire « Kumba ». Je voudrais savoir comment vont mes parents, mais ma mère, bon, mon père aussi, mais quand même ma mère, la pauvre, comment elle doit se sentir, quoi. Imagine un peu, mais personne ne peut l'imaginer, la souffrance d'une mère qui pleure sa fille. Mais elle vient dire ça à Kumba, parce que Kumba pourra entrer en contact avec elle. Elle pense qu'avec l'animisme, Kumba pourra raconter à ses parents marseillais qu'elle est sur l'île de Sangomar en transit avec les ancêtres, avec les âmes de nos morts là-bas, protégée par le roi des ombres. Et donc Kumba se dit, même malheureuse, elle a quand même cette pointe d'humour sur les filles. Et il est temps que les copines comprennent qu'elles ne peuvent pas remplacer un Jules. Donc si vous voulez votre chérie, il y a une copine qui débarque, elle pense qu'elle peut remplacer la compagnie de votre chérie, quoi. Mais non, ce n'est pas possible. Alors à la radio, je ne sais pas qui écoute, mais les filles, restez des copines. Et quand votre copine pleure pour son mec, allez chercher le gars.
Alors, moi, j'aimerais quand même savoir, parce que bon, je peux donner un autre exemple. À un moment, vous dites, si les gens pensaient moins à ce qu'ils ont dans leur froc, ils se serviraient davantage de ce qu'ils ont derrière le front. Alors, ce mélange de ce que j'appelle un grand style et de trivialité qui est assez constant chez vous, qu'est-ce que vous en attendez ?
Rien du tout, à part mon plaisir de sale gosse quand j'écris. Alors, je suis désolée. Mais c'est que j'aime beaucoup m'amuser quand j'écris. Et puis, c'est aussi une célébration, il y a une espèce de Ben oui, on parlait de trivial, alors je vais dire un gros mot. Par exemple, il y a quelque chose d'orgiaque de sortir la langue française comme ça, de lui faire mais un sort et de la triturer comme ça, de lui faire dire parfois n'importe quoi, mais en essayant de trouver une poésie là-dedans. Parce que vous imaginerez, là, quand je parle donc de cette phrase que vous venez de citer, il y a froc et front. Donc ça commence toutes les deux par la consonne F, et donc qui est une fricative F. Donc voilà, le souffle qui sort comme ça. Et il y a ce côté de l'air. Donc si les gens oublient un peu ce qu'ils ont dans le froc, donc souvent des pensées que de l'air, eh bien ils se serviraient plus, donc avec plus de contenu, de ce qu'il y a derrière leur front. Et donc vous remarquerez que dans froc, c'est comme si ça stagnait là à la gorge, alors que front... C'est quand même, ça s'élance beaucoup plus loin, ça a de la tête quand même, ça a de l'allure, ça a de la tenue. Et alors vous voyez, ça c'est une image que j'ai dans la tête quand j'écris. Et après Chateaubriand, on ne fera plus rien de brillantissime ou d'excessivement, comment on peut dire, ma joaillerie elle est terne à côté d'un Chateaubriand, mais j'essaie quand même de ciseler à ma façon.
Vous avez commencé à écrire à l'âge de 13 ans, c'est oui. Très très jeune. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre le crayon et puis de le garder par la suite et de devenir romancière?
Mais vous savez, j'écrivais déjà, c'est juste que c'était encore même illisible même pour moi. Mais déjà à l'école primaire, j'adorais écrire quand on faisait les poèmes à l'école. J'étais toujours la fille qui allait faire plus que ce que le maître demande pour faire plaisir à ma grand-mère ou mon grand-père. Parce que jusqu'en CE2, CM1, je pensais que ma grand-mère savait lire. Pas du tout. Jusqu'à ce que j'ai de bonnes notes et qu'il m'en colle une en me disant « Il faut bien travailler, il y a du rouge partout. » Donc je raconte dans le vent de l'Atlantique. Et donc j'ai dû aller chercher l'instituteur qui est venu lui dire « Mais non, il est la première de la classe, mais il faut la féliciter. Ah, mais laissez-moi tranquille avec vos histoires de colle, j'y comprends rien. » Et là, révélation, ah bon, elle ne sait pas lire, écrire. Donc, et du coup, écrire, c'était entretenir un dialogue possible avec elle. Mais 13 ans, c'est très daté. Quand j'ai vraiment commencé à écrire plus, vraiment encore plus, c'est quand j'ai quitté le village. Quand je suis partie étudier en ville, j'ai connu des familles d'accueil. J'avais tellement des tas de choses dans mon cœur que je ne pouvais confier à personne. Alors j'écrivais. Surtout que certaines d'entre elles, comme monsieur disait tout à l'heure, hein, parfois c'est trivial, ça m'aurait valu des claques. Donc je gardais tout dans ce carnet. Et après, quand je n'étais plus dans les familles d'accueil, j'ai loué ma chambre vers 15 ans, tout ça. Et bien là-bas, j'avais peur de la nuit. Donc je m'occupais en écrivant et en lisant beaucoup, beaucoup. Et je n'ai jamais arrêté depuis, hein, même hier nuit. Avant de venir ici, j'ai quand même écrit. Ce n'est pas du travail, c'est juste mon mode de vie.
Une forme de libération aussi.
Oui, mais je refuse toujours le côté cathartique de l'écriture. Parce que pour moi, il y a une vraie création artistique. Et quand j'écris sur certaines choses, c'est justement peut-être parce que... Quand j'écris sur mon enfance, c'est parce que heureusement, je l'ai un peu dépassé pour pouvoir faire de la création avec. Parce que quand on est envahi par la douleur des choses, on ne peut pas faire de la poésie avec. On ne peut pas se détacher, faire une distanciation pour inclure d'autres humains concernés peut-être. Et du coup, je ne prends pas l'écriture comme un médicament. Ce n'est pas que de la cathartique. C'est parfois juste une vraie création stylistique pour le plaisir aussi. Regardez Marianne Porteplaine, c'est un vrai pamphlet. Et c'était vraiment jouissif de passer des nuits à déclamer des énormités et à donner des noms à tout le monde, le manipulateur gesticulant, fions-nous à Dieu. Donc je leur ai donné tous les noms d'oiseaux. Et c'était, mais sans aucune méchanceté, si je les voyais, je dirais, ah, mais désolé, c'était pas pour vous blesser. C'est juste que moi, je vendrais ma mère pour un joli mot dans un livre.
Vous avez fait des études de lettres et de philosophie à l'université de Strasbourg, et puis vous avez étudié avant aussi à Dakar. Vous enseignez aujourd'hui et vous répétez souvent à quel point l'école, les études ont été déterminantes dans votre trajectoire de vie. Cette année, avec l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants étrangers hors contrat Erasmus, c'est très très compliqué pour venir étudier en France. Est-ce que, selon vous, c'est un peu une mise à l'écart délibérée des jeunes les plus démunis et issus de pays dont la monnaie est beaucoup moins forte que l'euro, comme les Sénégalais, comme les Africains?
Je n'enseigne plus, j'étais chargée de cours. Et puis avec les livres, et puis avec mes lecteurs qui me font l'honneur de m'encourager à chaque livre, et puis donc je suis conférencière. Et alors maintenant, c'est ça mon activité, je n'enseigne pas. Ça me manque parfois parce que j'aime beaucoup. Et je pense que l'éducation est incontournable pour tout système de développement. De toute façon, ça ne sert à rien, même si vous mettez des millions et que les gens n'ont pas l'éducation pour s'en servir, continuer la libération ne sera pas complète. Donc, il faut absolument l'éducation. Et alors, moi, ces frais me posent une question. Alors, en tant que ma part sénégalaise, je me dis, un pays occidental a le droit d'élever les prix de son pain, de ses voitures, comme de ses services publics. D'accord. Mais je suis française aussi. Donc, en tant que française, je me dis, mais quand même, M. Macron, si nous permettons de dire que nous voulons aider les pays du tiers-monde, ben ce n'est décidément pas comme ça que nous allons le faire. Parce que si nous mettons l'éducation plus chère, déjà quand elle est gratuite au Sénégal, les frais d'inscription et les fournitures empêchent certains d'étudier. Alors maintenant, si l'inscription elle-même devient inaccessible, eh bien, les quelques-uns qui avaient la possibilité de continuer, eh bien, ils ne pourront plus poursuivre leurs études. Et c'est une perte. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'inquiète et je pense que la solidarité entre les peuples mériterait peut-être que l'on tienne compte de la pauvreté de certains qui n'amoindrit en rien leur nécessité d'instruction. Voilà, il ne faudrait pas que la pauvreté limite le devenir de l'humain. La pauvreté ne doit pas justifier cela.